France Inter.
Journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand nucléaire, civil et militaire font cause commune, pour la première fois en France, l'armée fait appel à une centrale EDF pour produire un gaz indispensable aux armes de dissuasion. On va détailler les enjeux de cette annonce. C'est l'une des images qui ont marqué le début de la guerre en Ukraine. Il y a 2 ans, le bombardement du théâtre de Mariupol. L'un des survivants témoigne ce matin au micro de France Inter. À suivre aussi la semaine en 4 jours pour les parents divorcés. On peut construire des logements tout en bétonnant moins les sols, selon un rapport que nous vous dévoilons. Et la pole dance pour enfants, rien de suggestif ni de gênant là-dedans. À Paris, un club combat les préjugés.
Et au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui Rima Hassan, candidate LFI aux élections européennes. Le nucléaire civil au service d'objectifs militaires.
C'est donc une première en France. Une centrale du parc EDF, celle de Civaux, va bientôt servir à produire des matériaux irradiés pour l'arsenal français de dissuasion nucléaire. Jusque-là, les deux activités, civile et militaire, étaient clairement séparées. Mais le ministère des Armées et l'électricien national l'ont donc annoncé hier soir. Les 2 réacteurs de Civaux vont être mis à contribution pour la fabrication d'un gaz indispensable, le tritium. Explication signée Lauriane Delanoë.
Le ministère des Armées veut avoir plusieurs atouts en main pour la production de tritium en France, car ce gaz stratégique est difficile à la fois à produire et à stocker. Il faut en fabriquer régulièrement pour maintenir les armes de dissuasion nucléaire. Jusqu'à présent, c'est le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui assure toute cette chaîne pour la défense. Mais avec cette collaboration inédite, EDF va réaliser l'une des étapes techniques en doublant du CEA pour diversifier les sources. En résumé, des matériaux à irradier seront introduits dans le cœur des 2 réacteurs de Civaux. Ce sera sans conséquence sur la production d'électricité, selon l'État et EDF. Puis cette matière devenue radioactive sera remise au CEA et c'est lui qui produira vraiment le tritium final. EDF l'assure, Civaux sera la seule centrale nucléaire civile de France concernée par cette utilisation à des fins militaires.
Et si l'autorité de sûreté nucléaire donne son feu vert, les premiers essais à Civaux doivent commencer dès l'année prochaine. La dissuasion nucléaire, atout majeur de la France dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. C'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui le dit ce matin dans une tribune publiée par Le Monde. Mais surtout, Pierre Schill l'assure, quelles que soient les évolutions de la situation internationale, l'armée se tient prête au cas où. Elle se prépare aux engagements les plus durs. Si la situation l'exigeait un jour, la France a selon lui la capacité d'engager 20 000 hommes en un mois dans le cadre d'une coalition. Des propos qui résonnent évidemment avec ceux d'Emmanuel Macron. L'envoi de troupes en Ukraine n'est plus exclu. L'Ukraine, qui il y a 2 ans assistait impuissante à la chute de Mariupol, la grande ville portuaire du Sud-Est, pilonnée par les Russes pendant des semaines. Avec cet épisode en particulier qui a marqué les mémoires, le 16 mars 2022, le bombardement du théâtre de Mariupol, dans lequel des centaines d'habitants avaient trouvé refuge. Parmi les survivants, des comédiens qui depuis ont monté une pièce sur cette tragédie. Notre correspondant Camille Magnard a rencontré l'un d'entre eux à Kiev.
Dmytro Mourantsev a 24 ans et le regard intense de ceux qui ont vu le pire et qui y ont survécu. Comme il le raconte dans la pièce, le 16 mars 2022, il était devant son théâtre de Mariupol quand le missile russe est tombé.
Il y a une demi-heure, face à moi, il y avait le bâtiment du théâtre. Et maintenant, il y a une énorme montagne de ruines. Et cette montagne crie, nous sommes ici, nous sommes vivants, nous sommes coincés, et tu te sens tellement impuissant.
Les jours précédents, jusqu'à 1 millier d'habitants de Mariupol avaient trouvé refuge dans les sous-sols du théâtre, attendant un hypothétique convoi humanitaire pour tenter de fuir la ville pilonnée et assiégée. On ne sait toujours pas, 2 ans plus tard, combien sont morts sous les décombres.
Notre but principal, c'est de faire de la contre-propagande. Il y a énormément de désinformation russe qui affirme, par exemple, que le théâtre a explosé de l'intérieur. Et nous, qui nous demandons pourquoi est-ce que j'ai survécu, on se dit qu'on a en quelque sorte signé un contrat qui nous oblige à témoigner de tout cela.
Témoigner sur scène, Dmytro et les autres comédiens rescapés de Mariupol sont accueillis depuis 2 ans dans un théâtre à l'autre bout du pays, en Transcarpathie, la seule région d'Ukraine où les bombes et les drones russes ne tombent pas.
Camille Magnard, correspondant d'Inter à Kiev. C'est le plus haut responsable du Hamas éliminé par Israël depuis le début de son offensive à Gaza en octobre. Marwan Issa, numéro 3 de l'organisation islamiste, a bien été tué dans une frappe de l'armée israélienne la semaine dernière. Les États-Unis viennent de le confirmer. Tandis que sur le terrain, les troupes de l'État hébreu poursuivaient encore hier soir leur opération dans l'hôpital Al-Shifa de Gazaville. Elles disent y avoir tué une quarantaine de terroristes ces dernières 24 heures. Le Hamas parle, lui, de dizaines de morts et de blessés parmi des civils. Peut-on réduire la bétonisation des sols et en même temps répondre à la crise du logement? C'est a priori une équation impossible à résoudre. Au moment où la France devrait construire 400 000 logements par an, la loi zéro artificialisation nette oblige à diviser par deux d'ici à 10 ans le grignotage des espaces naturels par la ville. Et pourtant, ces deux objectifs sont bien conciliables selon deux associations, la Fondation Abbé Pierre et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Elles donnent leur solution ce matin dans un rapport que vous avez pu consulter, Claire Chaudière.
De Poitiers à Strasbourg, en passant par Épernay et Ris-Orangis, à chaque territoire sa solution. Ici, on fait de la densification douce en construisant un étage de plus, mais un étage seulement, sur certains bâtiments bas. Ici, on réhabilite des logements vacants, rachetés parfois par des bailleurs sociaux, ou plus novateurs encore, on reloge des personnes âgées vivant seules dans de grandes maisons devenues inadaptées. Objectif:
offrir une nouvelle offre de logement à nos seniors.
Rémi Nicolas est le maire de Marguerite, commune du Gard.
Et du coup, libérer du logement pour d'autres personnes, créer ce mouvement pour qu'une nouvelle famille puisse venir s'y installer.
Paradoxalement, diviser systématiquement des parcelles, construire une deuxième maison dans le jardin, est loin d'être la clé, car cela engendre des difficultés de voisinage et nuit à la biodiversité, pointe Rémi Guidoum de la Fondation pour la Nature et l'Homme.
Comment on arrive à densifier des quartiers pavillonnaires sans dégrader le cadre de vie? Construire non pas forcément dans les fonds de jardin, mais en front de rue.
Et tout cela nécessite un soutien de l'État important, insiste Manuel Domergue pour la Fondation Abbé Pierre.
Si on veut convaincre les élus locaux, il faut les aider à passer ce cap-là. Tout ça n'est pas encore très solide. Quand il y a eu 10 milliards d'euros de coupes annoncées le mois dernier, il y a eu 400 millions de moins sur le fonds vert.
Alors qu'il faudrait au contraire, selon le rapport, renforcer ces financements.
Le pouvoir d'achat des fonctionnaires en question. Les 5 700 000 agents publics sont appelés aujourd'hui à la grève par 8 syndicats pour demander une augmentation générale des salaires via le point d'indice. Une manifestation nationale est prévue à Paris cet après-midi. D'autres rassemblements devant les préfectures en région. Autre mobilisation du jour, celle des infirmiers libéraux. À l'appel des 2e et 3e syndicats de la profession, ils veulent une revalorisation tarifaire de leurs actes et ouvrir des négociations en ce sens avec l'assurance maladie. Débat sur les rémunérations, mais aussi les conditions de travail parmi les pistes du gouvernement en la matière. Selon nos confrères de la Tribune dimanche, la semaine en 4 jours pour les parents divorcés, en tout cas quand ils ont la charge de leurs enfants. Une expérimentation pourrait être menée dans plusieurs administrations. Réaction recueillie à Asnières dans les Hauts-de-Seine au micro de Benjamin Recouvreur.
Comme tous les lundis, Maïlys, 36 ans, cadre dans une start-up, récupère ses deux jumelles à l'école.
Vous êtes bien amusés cette semaine avec papa, c'est bien ?
Manon et Valentine, 6 ans, déposés le matin par leur papa, elle les a chez elle toutes les semaines pères.
Voilà, elle retrouve le chat déjà, on fait des câlins.
7 jours forcément bien plus intenses pour la maman.
C'est plus fatigant, quand on n'a pas de temps pour souffler, c'est que boulot et les enfants, et le boulot et les enfants, et bah oui, on n'a aucune soupape.
Alors la semaine de 4 jours...
Ça me permettrait d'évacuer les tâches d'organisation, de faire les courses, tout ça, sur un jour qui n'est pas le week-end. Et du coup, de profiter de mes enfants à 100% le week-end, ça permettrait de donner un peu de respiration dans nos quotidiens.
Ces deux filles aussi sont pour.
Est-ce que tu aimerais bien que papa et maman travaillent un petit peu moins ?
Oui, parce que papa, il travaille tout le temps.
Benoît, le papa, manager dans une agence digitale, le reconnaît.
Ça me fait mal au cœur de parfois faire des gros horaires et de me dire à 19h30 que j'ai plus qu'une heure avec elle avant de les coucher. Parent tout seul avec deux jumelles, c'est vraiment très sport. La direction est un peu sévère parfois. Il y a du stress, il y a de la charge mentale. S'il y a des enfants malades, c'est aussi cette charge-là qui est extrêmement lourde.
Alors lui aussi est plutôt favorable.
Sur le plan personnel, je pourrais avoir une journée de plus avec mes enfants. Sur le plan professionnel, on sent pas que c'est une journée indispensable.
En attendant, pour tenir le rythme, il a pris une nounou depuis 2 mois.
et dans les cuisines de ces familles. Le sucre, toujours omniprésent dans l'alimentation quotidienne sous toutes ses formes. Les trois quarts des 50 000 aliments analysés par l'ANSES en contiennent, même parmi les produits salés, potage, biscuits apéro, charcuterie, plats cuisinés. L'Agence de sécurité sanitaire dévoile ce matin les résultats d'une grande étude menée entre 2008 et 2020. La bonne nouvelle, c'est que cette part de substances sucrantes commence à baisser. C'est surtout significatif pour les boissons sans alcool. On va y revenir en détail dans le journal de 8h.
Il est 7h39, c'est un vrai sport qui souffre encore de préjugés.
La pole dance est encore, oui, trop souvent associée au striptease en boîte de nuit. Pourtant, c'est une vraie discipline sportive depuis près de 20 ans maintenant, avec des compétitions, 230 clubs en France, au moins 40 000 pratiquants, et parmi eux, plus récemment, des enfants. Océane Zitouni a assisté à un cours pour jeunes pole dancers à Paris.
En shorties et brassières, des enfants âgés de 7 à 10 ans tourbillonnent autour de grandes barres de 3,50 m de haut. Rien à voir avec les cours pour les plus grands, où certaines poses sont assez suggestives. Là, les enfants grimpent comme des ouistiti, puis se laissent tomber en arrière en gainant les abdos. Ça s'appelle la planche, des figures que Claire Franceschi enseigne aux plus petits depuis 7 ans.
La pole dance, c'est très acrobatique et ça fait vraiment penser à la gym ou au cirque. Et en fait, les enfants, ils adorent.
Et ce n'est pas Kate, 10 ans, qui dira le contraire.
J'aime bien quand t'es tête en bas, quand tu vas c'est cool quoi.
Le côté moins rigolo en revanche, c'est quand leurs camarades leur parlent de sport dans la cour de récré, admet Maëlys.
Ils sont étonnés parce que pour eux c'est un peu dégoûtant. Et du coup, je parle pas trop de ça à l'école parce que je comprends pas.
Les parents non plus ne comprennent pas pourquoi ces stéréotypes continuent de coller à la barre. Laura emmène sa fille Louise au cours chaque mercredi depuis 2 ans.
Elle tournait tout le temps autour des barres de pompiers au parc de jeux. Et je lui dis, mais tu sais, c'est une discipline qui existe vraiment. Donc, je lui ai montré une vidéo. Et puis bon, elle est encore jeune, donc on n'est pas dans des stades où on en fait avec les talons. Là, c'est pas du tout le sujet, donc aucune appréhension.
En 3 ans, le club Paul Spirit a dû ouvrir 2 classes supplémentaires pour faire face à la demande croissante.
Sur le papier, elles sont largement favorites. Les footballeuses de l'OL, 8 fois championnes d'Europe, affrontent ce soir les Portugaises du Benfica en quart de finale de la Ligue des champions féminines. Coup d'envoi, 21h à Lisbonne.
Merci Alexis Morel. À suivre, Yael Gauze et Dominique Seux.